Et les matins se poursuivent avec le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol, à Rouen, l'inquiétude domine toujours chez les habitants. Nous entendrons aussi le président de la commission d'enquête du Sénat, Hervé Maurey, qui sera sur place à Rouen ce matin.
Carlos Ghosn demande l'abandon de toutes les poursuites contre lui au Japon.
Les avocats de l'ancien patron de Renault-Nissan accusent le procureur de collusion. Explication à Tokyo dans un instant avec notre correspondant Yann Rousseau.
Et puis au Liban, les manifestants continuent de réclamer le départ d'une classe politique accusée de corruption.
8 jours après le début de la contestation, le Hezbollah aussi est directement critiqué dans les cortèges. Reportage à Beyrouth avec Chloé Doma. Et puis en Espagne, le corps du dictateur Franco exhumé aujourd'hui dans un pays toujours divisé sur sa mémoire. C'est un grand jour pour les victimes du franquisme, nous dira à Madrid Pierre Chaperon. Un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, les habitants vivent toujours dans l'inquiétude. Depuis lundi, l'association Aide aux victimes et information sur les problèmes pénaux a mis en place un lieu d'écoute à la mairie. 200 personnes ont déjà contacté l'association pour recevoir des conseils juridiques. C'est un reportage de Christine Wurtz.
Dans son bureau de la mairie annexe, Véronique Delaunay tente de répondre aux interrogations des habitants de l'agglomération, pas toujours convaincus par le discours rassurant des pouvoirs publics.
Je pense que les personnes qui viennent nous voir ont besoin avant tout d'être écoutées et reconnues dans le trouble de la vie quotidienne qu'ils ont connu. Ça génère des angoisses. Pour d'autres, c'est des problèmes plus matériels. Mon jardin, j'ai eu du plaisir à faire mon potager, je ne peux pas le consommer.
Selon les cas, Véronique les oriente vers un psychologue de l'association ou vers un avocat. Maître Thirion Cassoni reçoit gratuitement ce matin Marie-Vonne et Jacques. Le nuage de Lubrizol est passé au-dessus de leur maison en laissant des traces.
On a eu sur le bord des fenêtres,
oui.
Et sur la terrasse.
Ah, j'ai oublié de déclarer votre sinistre à l'assurance.
Mmh. Et Marie-Vonne s'inquiète surtout pour sa santé.
Moi, je sais que j'ai ressenti des picotements surtout pendant les 2 premiers jours, après ça se passe au niveau respiratoire dans les années à venir. Qu'est-ce que ça va nous donner, sachant que quand il y a eu Tchernobyl, on sait les conséquences après. Hein.
L'avocate leur conseille de porter plainte.
Pourquoi je conseille le dépôt de plainte? Parce que, de toute façon, on a tous subi un préjudice, parce qu'il y a eu mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'on ne sait pas ce qui se balade dans l'air, ni vous ni moi encore aujourd'hui, et parce qu'on ne connaît pas les conséquences futures en termes de santé publique.
Mi-octobre, déjà plus de 130 plaintes avaient été déposées.
Christine Wurtz de France Bleu Haute-Normandie. Des sénateurs arrivent aujourd'hui à Rouen, sur le site de l'usine Seveso. Une visite dans le cadre de la commission d'enquête dont ils font partie et qui doit faire la lumière sur les circonstances de l'incendie. Le président de cette commission d'enquête, Hervé Maurey, était l'invité hier soir du journal de 22h sur France Culture. Après avoir auditionné le patron de l'usine, Éric Schnoor, il dénonce le manque de précision des responsables dans ce dossier.
C'est clair que nous n'avons pas été totalement convaincus par un certain nombre de points et nous avons eu l'occasion de le lui dire, notamment lorsqu'il indique que les fumées dégagées par l'incendie n'ont pas plus de toxicité que celle d'une maison qui aurait subi un incendie, lorsqu'il nous indique également que toutes les analyses indiquent qu'il n'y aurait aucun problème. Nous lui avons évidemment demandé de détailler ces allégations et de nous fournir dans les meilleurs délais, des éléments tangibles, c'est-à-dire des analyses ou des expertises permettant de confirmer ces propos. Voilà notamment un point sur lequel nous restons, et c'est un point évidemment très important, l'impact sur la santé de ces événements, un point sur lequel nous restons encore assez interrogatifs. Nous n'avons pas à ce moment d'éléments permettant de savoir s'il y a vraiment un impact sur la santé, s'il y a un risque sanitaire ou pas. Mais on n'a pas non plus d'éléments nous permettant d'être certains du contraire. On aura aussi à s'interroger sur la véracité des propos qui seront tenus par les ministres qui viendront devant la commission d'enquête. C'est pas spécifiquement M. Schnoor dont nous pouvons éventuellement mettre en doute la véracité des propos, c'est l'ensemble des personnes qui seront auditionnées.
Il était donc l'invité de Laura Dubieux hier soir sur France Culture devant la mission d'information à l'Assemblée nationale à propos toujours de cet incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Le directeur à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie a pointé plusieurs défaillances de l'usine voisine de Lubrizol, Normandie Logistique, qui a commis plusieurs infractions pénales selon ses mots, notamment en ne s'étant pas déclarée comme une installation à risque et qui à ce titre nécessitait des contrôles réguliers. Un hôpital psychiatrique où les chambres ressemblent à des cages, sans eau, sans lavabo, pas de bouton d'alerte pour appeler le personnel médical. Le pôle psychiatrique du centre hospitalier André Rosemont de Cayenne, en Guyane, est à nouveau pointé du doigt par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Malgré un signalement effectué l'année dernière, et alors que l'autorité régionale de santé de Guyane s'était engagée à renforcer le respect des droits et de la dignité des patients, un an plus tard, la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, n'a toujours pas réagi, dénonce Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté.
La pratique de l'isolement, elle doit s'effectuer tout à fait en dernier recours. Or, dans cet hôpital, il s'avère que ces pratiques d'isolement sont totalement banalisées, que les chambres d'isolement sont dans un état tout à fait indigne. La plupart d'ailleurs d'entre elles ressemblent beaucoup plus à des cages, voire à des cachots, qu'à des chambres. 7 chambres sur les 12 sont dotées d'une caméra de vidéosurveillance, ce qui fait que tous les gestes du patient sont filmés. Et pour que ça puisse être filmé jour et nuit, la lumière n'est jamais éteinte, ce qui est absolument anormal. Donc nous avons fait des recommandations publiées au journal officiel pour demander que ces pratiques abusives et illégales de mise à l'isolement cesse immédiatement. Et la publication au journal officiel est une façon d'officialiser les choses et d'alerter les pouvoirs publics, en l'occurrence la ministre de la Santé, de façon plus solennelle.
Adeline Hazan répondait à Laura Lavenne. La France propose un nouveau candidat à la Commission européenne 2 semaines après le rejet de Sylvie Goulard. Emmanuel Macron vient de transmettre la candidature de Thierry Breton à la présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce de l'Élysée ce matin. Thierry Breton est actuellement PDG du groupe Atos après avoir été à la tête de France Télécom. Il a également été ministre de l'économie sous Jacques Chirac. Et dans son billet politique après ce journal, Stéphane Ambert s'intéressera lui au retour de François Baroin en première ligne du parti Les Républicains. Ce sera juste après ce journal. Nous partons maintenant à Tokyo où Carlos Ghosn mène la contre-attaque. Les avocats de l'ancien ex-patron de Renault-Nissan accusent les procureurs d'actes illégaux et demandent l'annulation des poursuites visant Carlos Ghosn en amont d'une audience au tribunal ce matin. À Tokyo, Yann Rousseau.
Les avocats japonais de Carlos Ghosn étaient tous aux côtés de l'ancien patron ce matin au tribunal de Tokyo. Ils ont profité d'une audience préliminaire pour dévoiler leurs arguments. Ils expliquent que le procureur, des dirigeants de Nissan et des responsables du ministère de l'Industrie ont décidé de faire tomber le patron franco-libanais dès mars 2018 parce qu'il prévoyait un rapprochement capitalistique entre Renault et Nissan. Et pour le faire chuter, ils auraient multiplié les actes illégaux. Le procureur aurait ainsi utilisé des employés de Nissan pour récupérer des documents confidentiels à l'étranger. Il aurait aussi fait voler l'ordinateur portable de l'ancien avocat de Carlos Ghosn. Et il aurait détourné la loi sur le plaidé coupable. Et donc, les avocats listent toutes ces irrégularités dans 2 gros mémoires qu'ils ont remis à la cour et ils demandent au juge de faire annuler l'ensemble de la procédure. Alors, la démarche est très spectaculaire, mais elle n'a aucune chance d'aboutir. Le principal avocat de Carlos Ghosn, Hironaka San, vient de nous dire que la cour n'aurait probablement jamais ce courage et qu'il y aurait donc bien un procès. Quand, on ne le sait toujours pas, cela devrait démarrer l'an prochain, mais probablement très tard dans l'année, tant le dossier est gigantesque.
Et puis dans le volet français de l'affaire, celle des contrats de conseiller d'une filiale de Renault-Nissan, les bureaux de Rachida Dati ont fait l'objet hier d'une perquisition. L'élu parisienne est visée dans cette enquête pour abus de biens sociaux et corruption, soupçonnée d'avoir perçu plus de 900 000 euros d'honoraires d'avocate en 2 ans. La Bolivie toujours sous tension alors que le pays attend encore les résultats définitifs pour l'élection présidentielle. Le président sortant Evo Morales se dit toujours vainqueur, mais face à l'incertitude et aux soupçons de fraude sur ces votes qui sont toujours en train d'être décomptés, plusieurs manifestations ont encore eu lieu hier. Des opposants et des partisans d'Evo Morales sont sortis dans la rue, notamment à Santiago. Au Chili voisin, les annonces sociales du président Piñera hier n'ont pas apaisé la colère. Des milliers de personnes sont encore descendues dans les rues, nombreuses donc à dénoncer la situation économique du pays et les inégalités. Dans d'autres villes, notamment dans le sud du pays, à Santiago également, la contestation se poursuit. Les émeutes ont déjà fait 18 morts. La colère ne faiblit pas non plus au Liban. 8e jour de manifestation, la mobilisation ne faiblit pas. Malgré les annonces de réforme du Premier ministre Saad Hariri, les manifestants demandent la démission du gouvernement et pour la première fois, ils ciblent aussi le puissant parti chiite soutenu par l'Iran, le Hezbollah. Reportage à Beyrouth de Chloé Doma.
Malgré la pluie et la fatigue, des manifestants par milliers tiennent le centre-ville de Beyrouth. Fait rarissime au Liban, certains slogans sont directement dirigés contre le Hezbollah. Pour Diana, c'est la fin d'un interdit.
Pour toujours, on était un peu effrayés de dire quelque chose directement à Hezbollah. L'idée, seulement l'idée, qu'on peut parler de ça cette fois dans la rue, ça c'est différent, c'est un grand changement.
Les protestataires rejettent en bloc la classe politique héritée de la guerre civile. Ils demandent le départ de tous les dirigeants, mais certains, à l'instar de Raya, une étudiante de 23 ans, émettent une réserve.
Tout le monde, ça veut dire tout le monde. Ça veut dire les membres du Hezbollah qui ont des postes au gouvernement. Mais personnellement, je ne demande pas à Hassan Nasrallah de rendre des comptes, car c'est un homme de révolution.
De révolution, ou plutôt de ce que le parti de Dieu appelle la résistance contre Israël. Sans s'attaquer à ce tabou, la parole s'est libérée, y compris au sud du pays, fief historique du Hezbollah.
Chloé Doma à Beyrouth pour France Culture.
8h11, la suite de votre journal, Sophie Delpont, est dans quelques instants. De Beyrouth à Santiago, pourquoi tant de colère? On va continuer de développer cette thématique avec les invités des Batins, Ishan Diwan, économiste, et Olivier Daben, professeur à Sciences Po.
Et avant tout cela, nous partons en Espagne, un pays déchiré autour de la mémoire des années Franco. Le transfert de la tombe du dictateur espagnol au pouvoir de 1939 à 1975 se déroulera aujourd'hui en milieu de matinée. Une mesure très attendue par les victimes du franquisme. Il sera exhumé donc du site de la vallée de Los Caídos pour aller au cimetière d'El Pardo, une petite ville à 15 km au nord de Madrid. À Madrid, justement, la correspondance de Pierre Chaperon.
C'était une priorité de Pedro Sánchez, président du gouvernement, lors de son premier entretien à la télévision espagnole après son élection en juin 2018. Il avait promis d'exhumer les restes du corps de Franco. Objectif pour lui, réconcilier les Espagnols avec leur histoire et transformer le mausolée de la vallée de Los Caídos, où repose actuellement l'ancien dictateur espagnol, en lieu de paix et de concorde. Loin de l'image actuelle de cette montagne à 50 km au nord-ouest de Madrid, vue comme un endroit d'apologie de la période franquiste. La procédure aura duré donc 15 mois, le temps pour la famille du Caudillo d'épuiser tous les recours possibles. Opposé dans un premier temps à son transfert, sa descendance souhaitait choisir le lieu où reposerait Franco, à savoir un caveau en plein centre de Madrid. Demande refusée à chaque fois. C'est finalement à El Pardo, dans la banlieue nord de la capitale espagnole, qu'il sera inhumé dans le caveau familial à quelques mètres de son ancienne résidence officielle. Pas sûr néanmoins que cet acte referme définitivement les vieux fantômes du passé dans un pays encore et toujours divisé au sujet de cette époque.
À partir d'aujourd'hui, les grandes plateformes internet sont censées rémunérer les éditeurs de presse pour les contenus qu'elles partagent. C'est l'application de la réforme européenne du droit d'auteur votée en mars et la France est le premier pays à la transcrire dans son droit. Oui, mais voilà, Google l'a annoncé il y a un mois, il ne payera pas. Malgré les réactions outrées du gouvernement et des éditeurs de presse, l'entreprise américaine ne cède pas. Alors comment Google a-t-il fait pour vider la loi de toute substance? Les explications de Maxime Tellier.
Grosso modo, rien ne change car Google a été assez malin pour appliquer la loi à sa façon, c'est-à-dire en demandant à la presse de renoncer à exercer ce nouveau droit. Comment ? Eh bien, il y a un mois, l'entreprise américaine a tout simplement mis à jour ses conditions d'utilisation, puisque la nouvelle loi oblige les plateformes à rémunérer la presse pour reprendre des extraits d'articles, de photos ou de vidéos. Eh bien, Google a demandé aux éditeurs de presse de céder tous ces éléments gratuitement et la plupart ont accepté, de peur de perdre une part très importante de leur audience, car s'ils avaient dit non, Google aurait alors réduit au minimum leur référencement en ne mentionnant qu'un simple lien et un titre sur la page de recherche. La plateforme américaine fait donc là la démonstration de sa puissance. Elle a fabriqué un service indispensable à tous les médias et à beaucoup d'utilisateurs et donc elle impose sa loi. La directive européenne sur le droit d'auteur adoptée à l'échelle de tout le continent était pourtant censée faire le poids face aux géants américains, mais pour que le rapport de force fonctionne, il faudrait l'unité des pays et des éditeurs de presse. Et pour l'instant, ils sont en ordre dispersé.
Maxime Tellier, un dossier complet à retrouver sur franceculture.fr. 500 ans après la mort de Léonard de Vinci, l'exposition consacrée au génie de la Renaissance italienne ouvre aujourd'hui au Louvre. Aucun train ne circule entre Sète et Narbonne, conséquence des pluies diluviennes hier, notamment dans l'Hérault. Aujourd'hui, un seul département reste en alerte orange aux orages, il s'agit de la Haute-Corse. De la pluie et des orages annoncés aussi sur les Pays de la Loire aujourd'hui, la Bretagne, la Normandie ainsi que sur les Alpes-Maritimes. Un temps sec en revanche partout ailleurs. Les températures ce matin sont comprises entre 13 et 20 degrés, 13 degrés à Brest et à Lille, 14 à Bordeaux, 15 à Paris, 16 à Lyon, 18 à Nice et jusqu'à 20 degrés à Ajaccio.